Philippe-Vincent Foisy. Pour une information juste et véridique.
Cube Radio.
Parlons environnement avec le ministre de l'Environnement du Changement climatique au gouvernement fédéral, Stephen Guilbeault, qui est avec nous. Monsieur Guilbeault, bonjour.
Bonjour, M. Foisy.
Vous avez annoncé hier un autre 200 millions de dollars là, pour des projets afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre. J'essaie de regarder un peu à quoi ça servait ce fonds-là, les projets allaient où, cet argent-là va aller où. Et je me suis dit, bon, on va vous parler, on va vous le demander. 200 millions, pourquoi?
En fait, là, c'est un appel de proposition. Donc, c'est pour des communautés, des organisations qui ont des projets. Mais hier, lors de l'annonce, on avait plusieurs municipalités, par exemple, à travers le pays, qui ont fait différentes choses. Une communauté autochtone en Saskatchewan qui a installé des panneaux solaires sur tous ces édifices communautaires. Il y en a 8 dans la communauté, ce qui leur permet de réduire leur consommation d'électricité, leur consommation de mazout aussi, beaucoup dans les communautés autochtones. Un projet au Québec où on a investi avec une organisation qui prend les résidus alimentaires industriels, donc que ce soit par exemple des résidus au niveau de l'industrie laitière, de l'industrie des canneberges, et ils transforment ça en carburant, en éthanol et en engrais pour l'agriculture. Alors, donc plusieurs projets comme ça. Ces projets-là, au cours des dernières années qu'on a financés, ont permis de réduire la pollution de 24 millions de tonnes. Donner un ordre de grandeur, là, le Québec en général émet 80 millions de tonnes par année, et ces projets-là ont permis d'en réduire 24. Donc c'est quand même important.
Vous parlez de réduction des émissions de gaz à effet de serre. La grande question que tout le monde se pose en ce moment, c'est il est où le plan? Il devait arriver 6 mois après le dépôt du projet de loi, le plan pour les réductions de 2030. Ça arrive quand, ce plan-là?
En fait, j'ai l'obligation légale de le déposer à la Chambre des communes au plus tard à la fin mars. Alors, c'est dans la loi. Donc, on y travaille présentement. Il y a une consultation publique qui vient de se terminer. On consulte également les provinces, les territoires, les communautés autochtones. On a reçu, je vous dis ça de mémoire, là, mais près de 30 000 soumissions dans le portail public. Donc, ça a été excessivement populaire comme consultation. Et là, on est en train de travailler avec, évidemment, Environnement Canada, mais aussi avec plusieurs ministères, transports, ressources naturelles, innovation, pour finaliser le plan et le déposer à la Chambre.
Mais M. Guilbeault, ça devait être déposé ça 6 mois normalement après le projet de loi. Pourquoi avoir eu besoin de cette prolongation-là? Dans votre tête, quand vous étiez en campagne électorale, quand vous avez présenté ce projet de loi-là, vous n'aviez pas un concret pour atteindre les cibles déjà?
C'est parce que, la loi permet au ministre de demander une extension de 3 mois pour le dépôt. Donc, ce que je fais est tout à fait légal. C'est écrit noir sur blanc dans la loi. De deux, l'échéancier arrivait juste après l'élection. C'est sûr que moi, j'ai une excellente idée de ce que je voudrais qu'on fasse, mais c'est pas un plan, vous comprendrez, M. Foisy, qu'on fait sur le coin de la table. On a des consultations qu'on doit faire.
Mais il me semble c'est parce qu'on consulte depuis tellement longtemps.
C'est drôle que vous me dites ça, parce que moi, on m'a critiqué récemment parce que les consultations étaient pas assez longues.
Ben oui, mais à un moment donné, il y a un plan pour 2030, mais il va en avoir d'autres plans. Là, mais on peut toujours consulter, puis le plan peut changer, mais ça nous prend quand même un plan clair bientôt pour savoir on s'en va où dans moins de 8 ans. Là.
Exactement, et c'est pour ça qu'on consulte notamment les provinces pour dire, voici ce qu'on veut faire, vous en pensez quoi, vous, qu'est-ce que vous pouvez faire, est-ce que vous pouvez mettre l'épaule à la roue, que ce soit le Québec, le Nouveau-Brunswick, la Saskatchewan, l'Alberta, la Colombie-Britannique. Donc, c'est un processus normal. En démocratie, on consulte comme ça.
Est-ce qu'il y a des provinces avec qui c'est plus compliqué?
Écoutez, je pense que... On se racontera pas d'histoire, là. Vous avez probablement vu plusieurs des sorties du premier ministre Kenney, notamment en Alberta, qui me traite d'extrémiste, la Saskatchewan, c'est pas particulièrement plus reluisant de ce côté-là.
Donc, vous faites quoi avec eux autres? Vous leur imposez? Vous allez leur imposer le plan? Vous allez leur imposer ces mesures-là? Puis, tant pis pour vous, parce que vous suivez pas la parade?
De deux choses. L'une, d'abord, la Cour suprême du Canada a clairement dit qu'en matière de lutte au changement climatique, le fédéral pouvait intervenir. C'est pas une baguette magique qu'on peut utiliser comme on veut, mais il y a des provinces qui essayaient de nous empêcher de faire des choses. ils peuvent plus le faire. Puis entre le discours public d'un Jason Kenney puis ce qui se passe quand les fonctionnaires du fédéral vont rencontrer ceux de l'Alberta ou quand je parle aux compagnies pétrolières en Alberta, ces compagnies-là, il n'y a personne qui me dit « Nous, on veut rien savoir de votre plan. » Tout le monde me dit « Comment on travaille ensemble? Comment on fait arriver ça, la lutte au changement climatique? » Alors, je pense que il y a une minorité de gens qui résistent encore au Canada, mais la très grande majorité, certainement dans le secteur privé, veulent s'attaquer à ce problème-là.
C'est quoi la place du nucléaire dans le plan? J'entendais Justin Trudeau en novembre dire qu'il va y avoir une bonne place pour le nucléaire pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. J'essaie de voir c'est quoi la position canadienne. C'est pas clair. Vous, le nucléaire, est-ce qu'il y a une place au Canada importante pour cette énergie-là?
Ben, d'abord, il faut comprendre que le gouvernement fédéral, présentement, ne subventionne pas la production d'énergie au Canada, que ce soit de l'éolien, du solaire.
Sauf les industries pétrolières.
On subventionne, effectivement. Puis on a pris l'engagement d'éliminer les subventions d'ici 2023. Alors, il y a des gens qui disent, ben là, il faut subventionner le nucléaire. Ben là, je dis attention, là. Je veux dire, si le nucléaire est capable de compétitionner dans le marché avec le solaire, l'éolien, les autres formes d'énergie qui sont devenues très, très, très compétitives, on fait du solaire, de l'éolien au Canada pour la moitié de ce que ça nous coûte à vous et moi sur notre facture d'électricité. Puis le Québec est un des endroits au monde où le coût.
Mais donc il y a de la place, il y aurait de la place pour le nucléaire. Là. Vous dites pas non, il y en aura pas. Là. Vous dites si le marché et si les compagnies veulent en faire, ils pourront.
Ben, c'est une décision des entreprises ou des provinces dans certains cas. C'est pas le gouvernement fédéral ne produit pas d'énergie. Je veux dire, il y a des exceptions, là, les bases militaires.
Non, justement, mais vous ne dites pas non. Vous ne dites pas non au nucléaire. C'est un peu ça la question. Parce que Justin Trudeau dit venez investir chez nous en nucléaire. Vous dites la porte elle est ouverte.
Ben, ce que je dis, c'est que si le nucléaire est capable de compétitionner sans subvention avec les autres formes d'énergie qui produisent à très très faible coût, ben là, on verra.
On verra où la porte est ouverte.
Ben, encore une fois, c'est pas le gouvernement fédéral ne dit pas aux entreprises.
Ben, vous pouvez dire non. Vous avez le droit de, parce que vous dites un peu les deux. Vous voulez pas dire oui, mais vous voulez pas dire non. Fait que vous dites on verra, alors que le premier ministre dit oui. C'est juste que j'essaie de comprendre et que ça soit clair dans la tête des gens.
Je l'ai dit, si le nucléaire est capable de compétitionner dans un marché excessivement compétitif où il y a déjà des entreprises et des technologies qui sont installées, bien implantées.
La porte sera pas fermée.
Exact.
Bon. Les camionneurs et la manifestation des camionneurs à Ottawa, est-ce que ça vous inquiète de savoir que, d'abord, vous êtes quand même perçu par plusieurs comme le radical en chef? Là. Il y en a beaucoup là-dedans qui sont contre les mesures vaccinales, mais aussi contre les mesures environnementales, la taxe carbone. Vous avez parlé de la rhétorique contre vous, qu'on a entendue sur les réseaux sociaux. Est-ce que ça vous inquiète de les voir sur la colline?
Ben, je pense qu'au Canada, on a le droit de manifester. C'est tout à fait normal dans une démocratie, en autant de le faire de façon non-violente, de façon sécuritaire. Moi, personnellement,
ouais.
Non.
Bon. Tant mieux. Bon,
au niveau, 90% des camionneurs sont vaccinés. Je comprends pas très bien tout ce mouvement-là parce que cette exigence-là que nous avons au Canada, elle existe aux États-Unis aussi.
Ouais.
C'est la même chose du côté américain. Alors, quand bien même qu'on l'enlèverait au Canada, ces gens-là pourraient pas rentrer aux États-Unis.
Ouais.
Donc, c'est un peu ridicule.
Monsieur Guilbeault, merci d'avoir été avec nous ce matin.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.